Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 7 mars 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Michel Joseph. Tout d'abord les titres.
Les Béninois dans l'attente des résultats du premier tour de la présidentielle de dimanche.
Séjour des représentants des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali. Nous aurons un reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas, accusé par le Caire d'implication avec les frères musulmans dans l'attentat meurtrier de 2015 contre le procureur général Hicham Barakat.
Trois personnes blessées par balles et d'autres peut-être prises en otage lundi dans une entreprise des faubourgs de Sydney, rapporte la police australienne.
Nancy Reagan, l'ex-première dame américaine, décédée hier dimanche à Los Angeles à l'âge de 94 ans.
Et ne manquez pas la suite de notre série de reportages à Diffa dans le sud-est du Niger, près du lac Tchad, avec notre envoyé spécial Nicolas Pinault. Ne manquez pas non plus notre rubrique sport avec Élisée Oumpatine. Pour l'instant, le journal. Dépouillement du scrutin au Bénin après le premier tour de l'élection tenue hier pour choisir le successeur du président Thomas Boni Yayi, qui quitte le pouvoir après ses deux mandats à la tête du pays. En lice, 33 candidats.
La décision de Boni Yayi de ne pas se représenter renforce la réputation du Bénin en tant que modèle de démocratie sur un continent où plusieurs de ses homologues ont modifié la constitution de leur pays pour tenter de se cramponner au pouvoir. Le point sur cette élection avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Andande.
Le chemin paraissait si long et la vue obstruée par de gros nuages noirs. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Le peuple béninois est allé aux urnes pour choisir le prochain président de la République. 7h du matin, c'est l'heure à laquelle la plupart des bureaux de vote ont ouvert pour laisser le peuple exprimer librement son choix. Quelques électeurs se prononcent ici.
Je suis très content, très très content. Très content. C'est à cause de vote que j'ai quitté le Nord hier pour rentrer. Je suis rentré ici à 5h du matin pour pouvoir voter. Et je l'ai fait, je suis très content.
Vraiment, mes sentiments, c'est le sentiment de la joie. J'invite à tout le monde de sortir comme on a sorti comme ça pour pouvoir aller compléter des voies physiques. C'est une fête, en fait.
D'abord, je me réjouis du calme qui règne ici. Ça a commencé à 7h06, quand je le lis au tableau, ce qui est très positif.
Le devoir que je viens d'accomplir est plus qu'un devoir civique, c'est un devoir spirituel.
Les votes ont pris fin à 16h par endroit pour laisser place au décompte des voix. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Séjour des représentants des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali du 4 au 7 mars. Au programme, plusieurs rencontres et entretiens avec les autorités maliennes, les organisations de la société civile, les partis politiques et les groupes armés. La délégation s'est rendue à Mopti et Tombouctou, deux étapes qui ont permis aux ambassadeurs d'échanger directement avec les acteurs à la base, nous dit Kassim Traoré.
Mopti, l'entrée du désert malien ou la Venise a été la première étape de cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ici, les échanges avec les autorités de la ville et la société civile étaient consacrés à la sécurité. Boukari Koïta, chef de cabinet du gouverneur de Mopti.
Donc ça veut dire que le règlement de la crise malienne intéresse au plus haut point le Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, le fait d'être à Mopti va droit au cœur des populations. Sauront aujourd'hui que le Conseil de sécurité veut vraiment ramener la paix et la cohésion dans notre pays.
À cette table d'échange, il y avait le commandant de la région militaire de Mopti, le colonel Daoud Ali Ould Mohamedine.
Je me dis que le Conseil de sécurité s'est déplacé. Vous pouvez rester à New York, mais venir sur le terrain, comme on le dit, voir une fois vaut mieux que d'entendre mille fois. Donc en venant nous voir, ça nous rassure et nous savons aussi que nous avons des gens qui sont à notre écoute.
Tombouctou était la deuxième étape de cette visite, une étape qui était sous haute surveillance sécuritaire. Cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies au Mali se tient à la veille du débat pour le renouvellement du mandat de l'aménagement et à la veille de la publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Cela ne peut pas être un fait du hasard, nous a confié un officiel. Kassim Traoré, de retour de Mopti et Tombouctou, VOA Afrique.
L'Égypte a accusé dimanche le mouvement islamiste palestinien Hamas d'être impliqué avec les frères musulmans dans l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie en 2015 au Caire à son procureur général Hicham Barakat. 48 membres des frères musulmans ont été arrêtés, dont 14 ont avoué avoir participé directement à l'attentat, a précisé dans une conférence de presse le ministre égyptien de l'Intérieur, Magdi Abdel Ghaffar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élections primaires aux États-Unis, Porto Rico a voté hier et donné une victoire au sénateur Marco Rubio. Le Michigan, le Mississippi, l'Idaho et Hawaii s'expriment demain dans le camp républicain. Donald Trump, qui a déjà gagné dans 12 États, reste le favori, mais le sénateur ultra-conservateur du Texas, Ted Cruz, espère lui barrer la route, alors que Marco Rubio mise sur la Floride et John Kasich sur l'Ohio. Chérubin Dorsil fait le point.
Avec ses deux victoires samedi, Kansas et Maine, Ted Cruz s'est rapproché du milliardaire Donald Trump.
And I'm very encouraged because if we continue to unite,
le sénateur du Texas appelle à l'unité pour stopper la marche victorieuse de M. Trump, qui a aussi remporté deux primaires, le Kentucky et la Louisiane. Parlant du sénateur de Floride, Marco Rubio, Donald Trump déclare qu'il n'a rien gagné, donc il devrait abandonner la course. Mais Rubio porte son attention sur le scrutin du 15 mars. À partir de cette date, avec les primaires en Floride et dans l'Ohio, le vainqueur d'un État remportera tous les délégués de cet État, au lieu du système proportionnel appliqué jusque-là. La Floride compte 99 délégués et l'Ohio 66. En revanche, suivant le même principe, une victoire de Donald Trump pourrait rendre sa nomination irréversible. Chez les démocrates, Hillary Clinton a le contrôle de la situation face au sénateur Bernie Sanders. Les deux se sont affrontés hier soir dans leur 7e débat télévisé, à 2 jours d'une échéance importante dans le Michigan.
Madame Clinton et M. Sanders ont, lors de ce débat, appelé le gouvernement républicain du Michigan à démissionner en le jugeant responsable du scandale sanitaire de l'eau contaminée au plomb dans la ville de Flint. Le débat avait commencé par une minute de silence en hommage à Nancy Reagan, l'ex-première dame américaine décédée hier dimanche à Los Angeles à l'âge de 94 ans.
Elle a succombé à une insuffisance cardiaque. Nancy Reagan laisse derrière elle le souvenir d'une épouse loyale, une première dame pleine de grâce et de charme, mais aussi une œuvre remarquable dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer qui a emporté son mari Ronald Reagan le 5 juin 2004.
Un médecin, le docteur Yves Renaud, nous offre cette réaction.
C'est quelqu'un qui a vraiment marqué son histoire. On l'appelait la Dame Dragon. On pensait qu'elle avait des tentacules, elle avait ses mains et sur toutes les décisions du président, de son Ronnie. Mais son souci, c'était de protéger son mari, qui aimait beaucoup son mari et qui cherchait partout à protéger son mari. On se rappelle de sa bonté. On se rappelle certainement de quelqu'un qui aimait vivre, qui invitait les gens au palais. Il a rénové tout ça, les invitations, les fêtes.
Yves Renaud, vous êtes médecin. Vous avez peut-être suivi aussi les efforts de Nancy Reagan dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer.
Quand le président Reagan, c'est probablement son Alzheimer a été dû au choc qu'il a eu quand il a reçu ses balles. Nancy, non seulement s'est occupée nuit et jour de son mari, elle a supporté avec une tendresse d'infirmière et de mère. Eh bien, elle a aussi travaillé pour faire connaître cette maladie aux États-Unis, pour obtenir des fonds, pour faire beaucoup plus de recherches. Qu'est-ce qui provoque la maladie d'Alzheimer et comment on peut arriver à remédier les problèmes, à soulager la douleur et la souffrance des gens qui ont la maladie d'Alzheimer.
Docteur Yves Renaud, joint en Floride.
Les hommages n'ont pas tardé, en particulier ceux de la Maison-Blanche. Le président Barack Obama et son épouse Michelle ont déclaré dans un communiqué: nous sommes reconnaissants pour la vie de Nancy Reagan, pour ses conseils, et nos prières l'accompagnent maintenant qu'elle et son cher mari sont de nouveau réunis.
Les négociations sur un règlement politique de la guerre en Syrie devraient reprendre jeudi. Washington et Moscou espèrent qu'il n'y aura pas de retard alors que l'opposition reste réticente à participer à ces discussions. Sur le terrain, les zones incluses dans l'accord de trêve ont connu dimanche une journée exceptionnellement calme, malgré des tirs sanglants de djihadistes et rebelles sur un quartier kurde de la ville d'Alep.
Trois personnes ont été blessées par balles et d'autres ont peut-être été prises en otage lundi dans une entreprise des faubourgs de Sydney, rapporte la police australienne. La presse fait, quant à elle, état d'un mort et de deux blessés.
Des négociateurs et une équipe d'intervention sont sur les lieux et cherchent à accéder au bâtiment, a déclaré selon l'agence Reuters une porte-parole des forces de l'ordre, sans préciser la nature des faits. En décembre 2014, un homme se réclamant de l'État islamique avait été tué à l'issue d'une prise d'otage qui avait coûté la vie à deux autres personnes dans un café du centre de Sydney.
L'Union européenne va solliciter la Turquie et soutenir la Grèce pour que ces deux pays l'aident à régler la crise migratoire avec la volonté de fermer définitivement la route des Balkans. Lundi, lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles, le flux des migrants irréguliers le long des Balkans occidentaux arrive à son terme. Cette route est désormais fermée, est-il écrit dans le projet de déclaration finale du sommet au moment où l'arrivée de 1,25 million de demandeurs d'asile divise comme jamais le bloc européen.
Les forces sud-coréennes et américaines ont débuté lundi les plus importantes manœuvres conjointes jamais organisées sur la péninsule coréenne, auxquelles Pyongyang a menacé de répondre par des frappes nucléaires à l'aveugle.
Ces exercices interviennent cette année dans un contexte particulièrement crispé, deux mois après le quatrième essai nucléaire de la Corée du Nord et un mois après un tir nord-coréen de fusée de longue portée. Des actions condamnées par le Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de voter une nouvelle fois des sanctions contre le régime le plus isolé au monde.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour. Football, honneur aux dames avec le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2016.
Oui, plusieurs rencontres ont eu lieu ce week-end et notons entre autres la victoire du Zimbabwe en Tanzanie 2-1. Le Botswana a étrié l'île Maurice 6-0. Le Sénégal a dominé la Guinée à Dakar 1-0 et 0-0 entre le Burkina Faso et la Tunisie. Même score entre le Mali et le Maroc. Et puis l'Algérie a dominé l'Éthiopie sur la marque de 1-0. Pour rappel, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale et le Kenya sont qualifiés d'office pour le deuxième tour de cette compétition qui aura lieu en fin d'année au Cameroun.
Toujours en football, les Coupes d'Afrique des clubs avec des matchs à rattraper.
Oui, deux rencontres du tour préliminaire retour qui n'avaient pu avoir lieu le week-end dernier restent à disputer en Ligue des Champions. Vainqueur 2-0 à l'aller, le Wydad Athletic Club de Casablanca a eu très chaud au match retour avant de se qualifier puisque de fait 2-1 à l'aller, les Verts de Casablanca l'avaient emporté sur la marque de 2-0. Toujours à Niamey, cette fois en Coupe de la Confédération. Pas de miracle pour l'AS Sonidep, déjà battu 4-1 à l'aller. Les Nigériens n'ont pu rien faire au match retour, battu 3-1.
En RD Congo, début des playoffs et ça démarre bien pour l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe.
Effectivement, déplacement à Goma, l'AS V Club a facilement battu Dauphinois 3-0, pendant que à Lumumbashi, le tout-puissant Mazembe prenait le dessus sur les cheminots de Saint-Éloi-Lupopo 2-0. La première journée de cette Lina Foot a vu le Daring Club Moteba Pembe tomber au stade de la Concorde à Bukavu face à Mungano 1-0. Précisons qu'en clôture de cette première journée, Sanga Balende a dominé chaque 11 sur la marque de 1-0.
Et puis, en Côte d'Ivoire, Assoumou Jean-Marie n'est plus l'entraîneur de la SEC d'Abidjan.
Exactement après 4 mois seulement passés à la tête des Mimos. Un départ à l'amiable selon un communiqué du club. Il perd la 10e place de la SEC après 8 journées de championnat. La très difficile qualification en Ligue des Champions face à Coton Tchad n'a pas plaidé en sa faveur. C'est son adjoint Siaka Traoré Djidji qui le remplace. Il avait déjà dirigé les Mimos entre 2012 et 2014. Et puis pour terminer du basketball avec les derniers résultats joués cette nuit en NBA.
Les Los Angeles Lakers ont réussi dimanche l'une des plus grosses sensations de la saison 2015-2016 du championnat NBA en dominant nettement le champion en titre Golden State 112-95. Les Lakers ont infligé aux Warriors leur 6e défaite de la saison. sous la direction de Kobe Bryant, pourtant diminué par une douleur à l'épaule droite, les Lakers ont assommé dans le deuxième quart les Warriors, qui ne s'en sont pas remis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Plus de 4 millions de Béninois ont pris part dimanche au premier tour du scrutin présidentiel. Ils sont allés aux urnes pour choisir parmi les 33 candidats en lice le prochain président de la République béninoise. Contrairement à la crainte exprimée par certains, les populations se sont massivement déplacées pour donner un coup d'accélérateur au processus démocratique en marche au Bénin depuis 25 ans. Plus de précisions sur le premier tour de cette élection présidentielle à travers ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
7 heures, c'est l'heure à laquelle les bureaux de vote dans leur majorité ont ouvert leurs portes. Le scrutin s'est bien déroulé, même si les électeurs déplorent par endroits l'absence des représentants des candidats.
J'ai voté dans la transparence, dans la tranquillité, dans la paix, dans la sécurité et sans aucune pression extérieure.
Je viens de voter et c'était bon, tout va bien.
Tout se passe normalement.
Le chef de l'État, Thomas Boni Yayi, a accompli son devoir civique et en a profité pour s'adresser au peuple béninois.
Notre démocratie fait un pas de plus et se trouve propulsée dans les grandes démocraties de cette planète. Alors, mes chers compatriotes, je vous laisse la République. Je vous laisse le Bénin, ses institutions. Je vous laisse l'unité nationale.
Lionel Zinsou félicite quant à lui la maturité du peuple béninois dont la clairvoyance aura permis le calme observé durant le scrutin.
Et j'ai été aussi très frappé par la ferveur de nos populations pour la démocratie. Un désir de transparence et de paix dans ces élections qui était vraiment universel.
Les candidats espèrent la vérité des urnes pour la sauvegarde de la paix et de la quiétude nationale. Marcel de Souza et Christian Lahindé sont tous deux présidentiables.
Que ce soit une fête et que le meilleur gagne et que le choix soit respecté dans la transparence.
Le vainqueur de cette élection, et je le souhaite du fond de mon cœur, que ce soit le développement du Bénin.
Les regards sont donc tournés vers la commission électorale qui fera une course contre la montre afin d'éviter un vide juridique puisque la constitution exige que le nouveau président soit investi dans ses fonctions le 6 avril. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars a démarré depuis vendredi et ce week-end, la plupart des candidats se sont mis à battre campagne. Tous promettent de travailler pour la jeunesse, alors que le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui n'en a pas fini avec la police, tient à participer au scrutin. Malgré les mauvaises conditions de préparation, selon lui. Le reportage de notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Démarrée dans une timide ambiance, la campagne électorale va entrer dans une phase importante aujourd'hui lundi. Mais déjà, annonçant les couleurs, le général Jean-Marie Michel Mokoko, malgré ses déboires avec la police, a déclaré que le vote aura bel et bien lieu, quelles que soient les conditions d'organisation du scrutin.
J'étais dans un statut qui ne me permettait pas de m'insérer dans un débat congolais. Les forces sociales et les forces politiques ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Malheureusement, le gouvernement de la République est resté sourd.
Sassou Nguesso, le président sortant, a choisi, lui, comme en 2009, la ville de Pointe-Noire pour présenter son nouveau projet de société, la marche vers le développement. S'exprimant en Kituba à la langue des Ponténégrins, il a promis de créer des emplois pour les jeunes et construire un nouveau barrage hydroélectrique, celui de Sunda, 1000 MW.
Nya, nya. Nya, nya. Nya.
Dans ce nouveau projet, nous allons renforcer la formation professionnelle des jeunes pour résorber le chômage. À Maluku, par exemple, nous avons créé 3000 emplois, mais il manque des jeunes qualifiés. Nous voulons aussi que les populations s'approprient désormais les routes que nous avons construites. Nous avons décidé de construire le barrage de Sunda pour accomplir notre vision de boulevard énergétique. L'un des rares candidats ayant débuté tambour battant sa campagne électorale, Joseph Kinyumbi Kiambongo, qui revient pour la troisième fois après 2002 et 2009, propose de gouverner autrement.
Que l'hôpital soit le plus proche possible du malade. Et je voudrais que, lorsque nous allons regarder, une fois élus, les problèmes des jeunes, c'est d'abord leur formation, être bien formé. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse bien formée.
La campagne électorale va se poursuivre jusqu'au 18 mars prochain. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Tchad, élection présidentielle également, ce sera en avril, mais le Conseil constitutionnel n'a toujours pas rendu publique la liste définitive des candidats. Ceux qui ont vu leur candidature rejetée crient à l'injustice. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmadjingar.
Ce suspense serait dû au fait que le Conseil constitutionnel n'a pas encore fini de statuer sur une dizaine de requêtes introduites par les candidats dont leurs actes de candidature ont été rejetés. Le député fédéraliste Ngarledi Yurungar fait partie de ceux n'ayant pas été autorisés par le dit Conseil à participer à cette élection. On lui reproche de n'avoir pas joint l'emblème de son parti et sa photo au dossier. Ngarledi Yurungar n'est pas encore situé sur son sort.
Je suis serein parce que j'ai été candidat. Trois fois, cette fois-ci, c'est la quatrième fois, je n'ai jamais produit ni logo, ni photo. La photo et le logo relèvent de la CENI qui édite les bulletins de vote, les spécimens. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Déby ne veut pas m'affronter sur le terrain électoral parce que si je l'affronte, je gagne.
Pour le député fédéraliste, le Conseil constitutionnel devrait plutôt invalider la candidature du président Déby pour trois raisons.
Un casier judiciaire se délivre dans le lieu de votre naissance. À défaut, c'est illégal. Deuxièmement, l'article 121 du Code électoral parle de combinaison de l'emblème. Dans la combinaison de l'emblème MPS, il y a bleu, jaune, rouge, ce qui est formellement interdit. Troisième point. Déby est chef traditionnel. Avec les élections, il faut qu'il démissionne du poste de chef de canton pour pouvoir être candidat. Donc, c'est la candidature de Déby qui doit être rejetée, non la mienne.
Le constitutionnaliste indépendant professeur Ahmad Mahamat Hassan invite le Conseil constitutionnel à être véritablement indépendant que de prendre des décisions tendancieuses.
Le Conseil constitutionnel, dans le cadre du rejet d'une candidature uniquement pour la question de l'emblème, je suis désolé, c'est une lecture soit tendancieuse, intentionnellement voulue, parce qu'il y a quand même des grands juristes dans le Conseil constitutionnel. Et ça, c'est une erreur qui est malheureusement fatale et préjudiciable pour beaucoup de Tchadiens.
André Kodmadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Suite de notre série de reportages à Diffa, dans le sud-est du Niger, près du lac Tchad, c'est là que s'est rendu notre envoyé spécial Nicolas Pineau. Sur place, l'économie repart doucement avec la réautorisation du commerce du poivron. Reportage.
Au marché au poivron de Diffa, le va-et-vient des camions est permanent. Cultivateurs, transporteurs, ils s'activent. L'or rouge du manga est de retour. Depuis 5 mois, son commerce a été autorisé à nouveau dans la région de Diffa. Wanibala Madjare est le directeur des cultivateurs de poivron.
Ça va, le commerce a repris il y a 5 mois. On vend bien aux Nigériens et aussi aux Nigériens.
Depuis plus d'un an, toute la filière du poivron était à l'arrêt. Les autorités locales en avaient interdit la vente car elles soupçonnaient Boko Haram de tirer des revenus importants de ce commerce. Aujourd'hui, il y aurait plus de traçabilité et les populations locales ont déjà fait beaucoup de sacrifices dans la lutte contre le terrorisme, comme l'explique à VOA Afrique le gouverneur de Diffa, le général Abdou Kaza.
Ces populations-là sont responsables et sont capables de mener leur commerce de poivron sans
qu'il y ait des risques du genre qu'on craint avec les rapports avec Boko Haram. La filière, on ne peut pas dire qu'elle est formellement ou hermétiquement maîtrisée, mais nous pensons qu'il n'y a pas grand problème avec cette filière.
Le sac de 50 kg de poivrons s'échange en ce moment à 24 000 francs CFA, soit 12 000 naira nigérians. Même dans les camps de déplacés, les affaires ont repris. Madou Kaloumi était cultivateur dans le village d'Assaga au Nigeria. Il a fui Boko Haram avec sa femme et ses trois enfants.
On vend sur Difa, mais aussi ici dans le camp si on trouve des acheteurs. Ici, c'est difficile. On manque de vivres, d'eau et il y a des problèmes de santé.
D'autres interdictions demeurent en revanche, notamment le transport à moto, une des armes privilégiées des djihadistes de Boko Haram. Pour le Nébé, où le poisson c'est aussi compliqué, Ari Alassouri est le secrétaire général du syndicat des commerçants de Difa.
Le poisson, bon, ce n'est pas bon parce que c'est interdit ici. On n'a pas autorisé de faire le passage de poisson au Nigeria. Ici, surtout à Difa, nous sommes tout près du lac Tchad. Mais malheureusement, vous savez, ces gens-là, ces enfants-là viennent par tous les moyens, ils profitent. Donc c'est pourquoi on a interdit le poisson. Même le poisson, Inch'Allah, dans quelques jours, on va aller voir le gouverneur pour voir vraiment si c'est possible de reprendre les activités du poisson.
Si le commerce du poivron a repris, les échanges entre le Niger et le Nigeria de ce côté-ci de la frontière sont en revanche perturbés par un conflit entre les transporteurs des deux pays, ce qui paralyse le trafic routier. Nicolas Pinault, Difa, VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Depuis 2010, entre deux FESPACO, il y a au Burkina Faso les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image. C'est un cadre de rencontres et d'échanges spécifiquement dédié aux femmes professionnelles du cinéma. La QV 2016 a donné à voir une quinzaine de films, tous métrages confondus et traitant des questions de genre. De Ouagadougou, nous dit Zoumana Wonoko.
La comédienne dans la création du film africain, tel est le thème retenu pour les JCFA 2016. Arjuma Soma, le délégué général du FESPACO, initiateur des JCFA, explique ce thème.
C'est pour instaurer un débat sur un métier, la comédienne en particulier, quel est son apport? Quelle image les comédiennes renvoient donc de la question du genre, de la question de la femme à travers les films?
Justement, à propos d'image de la comédienne, nous avons rencontré l'actrice béninoise Sandra Adjaro. Elle parle ici de la confusion que l'on fait entre les actrices et les personnages qu'elles incarnent dans les films.
Chaque fois quand tu joues un rôle, les spectateurs, c'est ça qu'ils voient. D'abord, ils te remarquent en tant que celle qui a joué ce rôle et on t'interpelle dans la rue par rapport soit à ton nom dans le film ou soit à ci ou soit à ça. On te connaît par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir à l'écran. Donc on te colle ce rôle.
En réponse à la question récurrente, le cinéma nourrit-il son homme? Écoutons ce qu'en dit la comédienne burkinabé Georgette Paré.
Que ce soit nous les comédiens ou que ce soit les réalisateurs ou tous les autres professionnels du cinéma, on est tous conscients que le cinéma ne nourrit ni son homme ni sa femme, encore moins son enfant. C'est par amour qu'on est là, c'est la passion du métier qui nous maintient. Et pour ça, on est prêt à tous les sacrifices.
Pour mieux vivre sa passion de comédienne, Sokhna Niang du Sénégal a trouvé l'astuce.
Tout est dur dans la vie, mais il suffit que tu crois que ce que tu fais, tu le crois. Dieu est avec toi, ça va être très léger. Je joue pour mon Afrique. Je fais autre chose. Je suis coiffeuse, je suis couturière, je suis danseuse.
Sur les relations quelquefois ambiguës entre les actrices et les réalisateurs pour avoir un rôle, Rokia Bonzi, comédienne burkinabé, se veut moralisatrice. On l'écoute.
Je dirais peut-être qu'ils ont peur de moi parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui le fera. Et en plus, s'il faut que je passe à table avant d'avoir un rôle, je crois que je ne vais jamais jouer. Parce qu'une fois que le film est fini, le réalisateur ou le producteur, il n'a plus rien à faire avec toi. Il va encore chercher une autre qui va passer à table. Et à chaque fois que tu dois faire un film, il faut que tu passes à table. Ça va faire combien de fois que tu seras à table? Finalement, tu vas te retrouver sur le toit.
À la différence du FESPACO, il n'y a pas de compétition au JCFA. On donne simplement un trophée symbolique dénommé Sarawinia à chaque participante. L'essentiel étant ici de venir pour apprendre des autres. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Et bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.